chers auditeurs et auditrices, bonjour, vous écoutez le 76e numéro d'En Spectateur, votre émission de critique de spectacle sur Transistor. Au programme de cette édition, deux spectacles qui nous invitent à passer plus ou moins à table. Nous parlerons dans un premier temps de Déjeuner chez Wittgenstein, ce sera avec Thomas, puis Lorenzo et Léa débattront de Mélancolie, avec un S entre parenthèses à la fin, ça fait très sujet de cagneux, qui s'est joué du 14 au 18 novembre au Théâtre de la Croix-Rousse. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une très bonne écoute. Comme je l'ai dit un instant, on commence avec toi Thomas, bonjour.
Bonjour Marie.
Alors tu es allé à la Guillotière au théâtre de l'Élysée voir Déjeuner chez Wittgenstein, c'est une pièce du dramaturge autrichien Thomas Bernhardt. Ici sur une mise en scène à trois mains, Aurélie Pitra, Marie-Pierre Nouveau et Nathanaël Maïni. Et ces trois metteurs et metteuses en scène étaient aussi les comédiens, comédiennes sur scène. L'histoire, c'est celle du philosophe Ludwig Wittgenstein, interné en asile, qui revient pour un déjeuner en famille chez ses deux sœurs. Alors, est-ce que tu peux nous dire, dans un premier temps, ce que tu as pensé de cette pièce ?
Alors, j'ai bien aimé l'ambiance générale de la pièce, qui est le gros point fort pour moi de la pièce. C'est une pièce qui met en scène un repas de famille typique du frère. Donc, le philosophe, c'est le frère qui revient à la maison. Et pour l'occasion, les deux sœurs ont congédié les domestiques. Ils se retrouvent seulement tous les trois à la table et pour préparer le repas. Et dès le début, en fait, la pièce se scinde un peu en deux parties. La première partie, c'est un peu une introduction à ce repas où, en fait, les deux sœurs arrivent dans la salle. Enfin, ouais, parce que le dispositif, en fait, j'en parlerai après, mais le dispositif que j'ai beaucoup aimé, c'est une table, en fait, de banquet, une grande table à laquelle les spectateurs sont assis, et donc sur chaque côté. Et au bout, il y a tour à tour les acteurs qui jouent, et donc les spectateurs s'assoient à cette table. Et donc chaque sœur se met, c'est les deux sœurs qui rentrent dans la première partie, chaque sœur se met de chaque côté et elle commence à discuter. Au début ça a l'air assez cordial, et puis ce que j'aime beaucoup c'est dans le jeu et dans le texte, mais dans le jeu surtout, parce que j'ai pas beaucoup aimé le texte, j'ai préféré vraiment le jeu qui amène plus d'ambiance je trouve, et qui fait du texte autre chose, enfin quelque chose de plus je trouve. C'est vraiment que ça commence à devenir grinçant, c'est-à-dire qu'il y a une sœur qui n'était pas pour faire sortir le frère de l'asile, et l'autre qui était beaucoup plus d'accord pour le faire parce qu'elle a toujours adoré. On comprend qu'il y a limite quelque chose d'incestuel entre cette sœur-là et le frère philosophe.
D'accord, très bien.
Non mais après ça reste jamais très, enfin c'est jamais glauque, mais on comprend quoi qu'il y a une adoration de ce frère-là. Et du coup, les deux points de vue des sœurs sur le frère vont de plus en plus monter en épingle dans une conversation. Et je trouve que dans le jeu, il y a quelque chose de très simple, mais qui marche super bien, c'est qu'elles se coupent la parole et même par moments, elles se parlent par-dessus. Ce que j'ai pas souvent l'habitude d'entendre, en fait, parce que c'est souvent recalé. Enfin, j'ai rarement l'habitude d'entendre des comédiens qui se parlent par-dessus. Et je trouve que c'est bien d'avoir fait ça. Et je trouve que c'est... peut-être pas novateur, il y a d'autres gens qui le font, mais c'est intéressant de le faire ici parce que ça montre que... Il y a vraiment une confrontation et un refus de... Il y a une confrontation de deux points de vue qui se veut jamais totalement directe et qui est toujours dans le grinçant et dans le non-dit, enfin dans le non-dit et dans l'ironie en fait. Et elles se mettent jamais vraiment sur la gueule, ces deux sœurs.
Ouais, ce que tu dis finalement, c'est que c'est très 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 réaliste comme engueulade pseudo-dissimulée et comme... moment de famille très très grinçant auquel on n'a pas forcément envie d'aller, mais que c'est très réaliste de ce point de vue là.
Enfin, je sais pas si je qualifierais ça de réaliste, mais c'est vrai que si, oui, ça l'est, parce que ça renvoie vraiment à tous ces moments gênants qu'on a tous dans l'imaginaire collectif de ces repas de famille où les gens se gueulent dessus, mais qu'on n'ose pas trop dire les quatre vérités à quelqu'un. Et pour ça, le dispositif, et c'est pour ça que je trouve le dispositif hyper bien, c'est que parce qu'il y a une comédienne du coup qui dresse la table pour des gens. Et après, les gens vont manger, c'est-à-dire que les comédiens nous servent à manger, enfin des petits bouts de trucs à manger.
Merci pour le bon plan.
Ah bah, c'est super. Si vous n'avez pas mangé, allez-y. Moi, j'ai eu deux saucisses, je vous conseille. C'est super. Et du coup, ça implique vraiment, parce qu'on a vraiment l'impression d'être, mine de rien, c'est tout bête, mais on a vraiment l'impression d'être à table avec eux. Parce qu'ils se posent avec nous et ils mangent en continuant à jouer, en fait. Les comédiens passent derrière nous pour distribuer à manger. Et quand ils sont de l'autre côté, on regarde les spectateurs, en fait on voit les spectateurs avec un sourire gêné, parce qu'il continue à jouer, du coup, il continue à se balancer des fions. Et du coup, les spectateurs, ils sont en mode oui, d'accord, c'est très gênant comme situation. Et du coup, ça marche super bien. Et je trouve que de ce point de vue-là, la mise en scène est vraiment réussie.
Avant l'émission, tu me disais aussi que tu avais peut-être quelques petits regrets à exprimer sur la pièce, au sens des choses qu'aurait pu faire, que ça aurait pu être encore plus réussi, peut-être.
Ça m'a manqué de moments où ça explose vraiment. C'est-à-dire que il y a un moment vraiment où le frère pète un câble et c'est très savoureux comme moment. Et puis la sœur aussi, enfin la deuxième sœur qui osait pas dire à celle qui voulait le faire sortir que c'était une idée stupide. En fait, petit à petit, sombre totalement dans l'alcoolisme pendant la pièce et à la fin est très drôle dans son alcoolisme. Mais du coup, ça reste très aplati. En fait, il n'y a jamais de moment où on va se confronter. Et puis même la fin, finalement, c'est tout le monde va retourner à cette vie-là qui est une vie faite de... Bah d'ironie grinçante entre eux et de jamais de sincérité. Donc ouais, d'un côté c'est une fin quand même qui amène à penser à d'autres choses et qui amène à se dire ok, ils vont vivre une vie terrible. Et en même temps la fin, ouais, on s'attendait à plus et on reste un peu sur sa fin. Enfin c'est pas un jeu de mots.
Sans vouloir faire un jeu de mots de Cagneux.
Non, vraiment pas. On reste à la fin et puis on les voit partir. Et en fait on reste assis à la table. Ouais, moi j'ai mis un petit moment avant de me lever parce que je sais pas, j'ai été aplati par cette fin dans mon siège, mais en fait c'est une fin qui se justifie par tout le reste avant et qui marche aussi, mais de mon point de vue personnel, ouais, je sais pas ce que j'aurais aimé d'autre, mais peut-être autre chose.
Bon, dans l'ensemble c'est une pièce que tu recommandes.
Ah oui, pardon, oui, je la recommande fortement, c'est vraiment un très bon moment de famille grinçant,
très bien,
très agréable à vivre.
Et bah si avec cette description cette pièce vous intéresse et vous fait envie, elle passe encore jusqu'au vendredi 1er décembre au Théâtre de l'Élysée. Merci Thomas pour ta critique. Alors, en spectateur reste à table pour la deuxième pièce dont il est question aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi Lorenzo et Léa. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Marie.
Alors, vous êtes allé voir Mélancolise, une pièce double, puisqu'elle mêle deux textes du dramaturge russe Anton Tchekhov, Trois sœurs et Ivanov. C'est une création du collectif In Vitro, sur une mise en scène de Julie Deliquet, et c'était au théâtre de la Croix-Rousse au mois de novembre. Pour cette pièce, comme pour la précédente, on entre dans l'histoire par l'angle de la famille et du repas, puisque dans cette famille, on est un an après la mort du père et en fait l'anniversaire d'un personnage, Sacha. Et ce qui devait être un rassemblement de famille plutôt enjoué se délite. Et je vous laisse me dire en quelques mots ce que vous en avez pensé d'abord à chaud quand vous êtes sorti du théâtre.
En sortant du théâtre, j'étais d'abord plutôt enjoué. Je me disais que j'avais vu quelque chose de bon. Et finalement, c'est sur le trajet du retour jusqu'à chez moi où je me suis dit de plus en plus que j'étais extrêmement déçu, en fait, que, j'avais vu une pièce qui était correcte, qui était, comment dire, pas désagréable, parce qu'on passe pas non plus en mauvais moment, mais une pièce qui, sur plein de points de vue, en fait, est assez décevante, enfin, surtout si on apprécie énormément les textes de Tchekhov et qu'on a vu des mises en scène plus réussies auparavant de pièces de Tchekhov. Ouais, je pense que ça peut laisser assez déçu et un peu irrité même parfois.
D'accord, ouais, on va revenir dessus après. Et toi Léa ?
Exactement la même chose pour moi, c'est assez marrant. En sortant en fait, comme la fin est assez fulgurante, enfin tout le dernier tiers je pense, avec un personnage donc, qui joue une sorte d'Ivanov... Oui, c'est Ivanov, en fait, qui nous emmène comme ça dans une sorte de pas de dépression, mais de nihilisme très destructeur, où on a comme ça tous nos états d'âme un peu sombres qui sont reflétés. On est galvanisé par ça. Donc on sort de ça, une sorte de satisfaction. Et puis après, on se dit, oui, mais enfin...
So what?
Ouais.
D'accord. La fin est un peu furieuse et elle s'achève sur le coup de pistolet où tous les spectateurs sursautent. Du coup, on sort de là sans trop, finalement, sans trop avoir pris de recul en sortant directement de la pièce. Et c'est au fur et à mesure, quand on la réélabore, que ouais, on se rend compte que plein de points manquent.
Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu plus sur ce qui vous a fait défaut ?
On a des personnages qui auraient pu être très complexes, qui auraient pu, je pense, montrer beaucoup de contradictions. Et puis on a ce S à la fin de Mélancolie qui sous-entend quand même que, voilà, on va aller creuser quelque chose qui psychologiquement va va être, comment dire, dense. Et en fait, on se retrouve avec certes un personnage furieux, d'autres personnages vaguement tristes, mais comme on s'attache trop à la narration de ce qui se passe durant... il y a un an à peu près qui se
passe. Oui, il me semble.
Qui passe.
Un an, oui.
À la narration de, voilà, qu'est-ce qui se passe, le mariage, bidule chouette. En fait, il raconte ce qu'il se passe alors qu'on a envie juste de creuser ce qu'ils sont.
On nous laisse constamment en surface de ce que pourrait être la mélancolie, et justement, enfin, on voit des tristesses, par exemple, c'est celle de Sacha qui pleure parce que son père est mort il y a déjà un an, c'est sa tristesse parce que son mariage se passe mal, c'est aussi sa tristesse quand elle voit que Ivanov lui-même ne va pas bien, mais à aucun moment, en fait, la mélancolie au pluriel, d'ailleurs, je comprends toujours pas le S à mélancolie, enfin, il y a éventuellement une mélancolie qui est celle d'Ivanov, mais à part son existence par le texte de Tchekhov, où effectivement, la mélancolie transparaît. J'ai à aucun moment vu précisément une mélancolie dans le personnage d'Ivanov qui, pour moi, apparaît comme un petit enragé, en fait, qui a constamment les poings serrés, qui se cogne le ventre d'une espèce de colère froide, oui, mais qui finalement est un personnage qui a été complètement lissé dès lors qu'on se reporte à la pièce où Ivanov est au contraire un personnage complexe. Et justement, on pouvait avoir de la pluralité de mélancolie, de la complexité de sentiments, et finalement on a quelque chose de très lisse et de très froid et qui peut laisser le spectateur qui attendait justement un développement de la mélancolie, clairement un spectateur qui reste sur sa faim, en fait.
Ce que tu dis un peu, en fait, c'est que c'est une pièce qui manque de spontanéité.
Justement.
C'est compliqué de dire ça. Non, je pense que c'est plus de maturation. Parce que, si tu veux, c'est justement une pièce très très spontané dans la mesure où c'est un collectif qui fait du plateau, de l'écriture de plateau. Et ils improvisent sur scène. Mais le problème, c'est que ces improvisations, ou alors ces moments, ces phrases lâchées, un peu improvisées, elles sonnent pas justes.
Et justement, enfin, le collectif In Vitro, dans leur théorie, affirme vouloir délaisser le théâtre pour faire de la vie sur scène. Et justement, enfin, c'est quelque chose qui effectivement, enfin, pourrait donner à voir une belle spontanéité, une belle improvisation, de beaux moments justement d'improvisation, mais qui se laissent pas sentir comme tel. Et en fin de compte, on a des moments où des fois le spectateur même, enfin moi parfois j'ai été gêné par des moments qui je trouvais sonnaient extrêmement faux, des moments où l'improvisation déraille dans quelque chose finalement qui, je sais pas, dans des paroles qui n'ont pas de rapport avec le système du dialogue, des choses lâchées comme ça qui paraissent complètement hors norme ou hors de je sais pas, de tout système, en fait, qui...
Mais après, je sais pas, moi, je suis assez d'accord, mais en même temps, je suis assez contente de voir ce genre de choses, des fois. Ça donne une sorte de théâtre plastique plein d'incertitudes, où t'as l'impression que tout et n'importe quoi pourrait se passer, et dans une pièce où on a, justement, des personnages un peu... où on aimerait avoir peur qu'ils puissent dérailler, le fait que l'acteur le fasse, au moins, j'ai trouvé ça assez satisfaisant.
Alors, si on revient un peu sur la place du texte, ou plutôt des textes de Tchekhov, comment est-ce qu'ils étaient articulés, et qu'est-ce que vous avez pensé, ça, de la manière dont les deux textes étaient mêlés et articulés avec de l'improvisation?
C'est-à-dire qu'à la base, on est en mélange d'Ivanov et des trois sœurs. Donc d'Ivanov, on retrouve par exemple Nicolas, sa femme Anna qui est malade, donc ça, même système que dans la pièce. On a aussi le personnage de Sacha qui se marie avec Ivanov à la fin d'Ivanov, et qui ici fait partie finalement de la fratrie avec Olympe, dans laquelle on retrouve le personnage du médecin qui se réclame honnête dans Ivanov, et on retrouve aussi des trois sœurs, Natacha qui est la femme du frère, donc une fille un peu vulgaire et qui selon tout le monde en fait aurait empêché le frère de réussir sa vie. Donc finalement les textes sont, le mélange se fait assez bien, c'est, on dirait en tout en fait un même texte.
Moi je trouvais ça assez intelligemment fait, hein. Ouais. Et puis enfin si tu veux c'est un mélange,
ça marche, quoi.
C'est utilitaire, enfin ouais. C'est bon, il y a deux personnages dans deux pièces différentes qui pourraient donner quelque chose de similaire ou de d'aussi complet si on les mettait ensemble, allons-y, c'est une adaptation très très libre. Mais qui, je pense, est faite à l'aune de l'efficace et de l'effet produit, quoi.
Et le texte est, comment dire, le texte est clairement remanié, enfin très modernisé d'ailleurs. C'est une adaptation libre, ça c'est clair.
Alors un aspect dont on n'a pas trop parlé jusqu'ici, c'est la scénographie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Déjà, pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas vu la pièce, à quoi est-ce que ça ressemblait, ce plateau?
Le spectateur était en face, d'une scène qui était séparée en deux, c'est-à-dire qu'on avait tout au fond le fond de scène en fait qui était laissé libre, où il n'y avait pas de décor, où on voyait les extincteurs, les portes de sortie qui menaient à la coulisse, etc. Donc un peu cette idée de théâtre contemporain, d'exhibition de la structure théâtre en fait, plus que de l'illusion scénique. Et dans la première moitié du coup de la scène, on avait donc sur toute la partie les bons trois quarts de la scène en plateau en caillebotis en fait, en bois, avec dessus en transat, en hamac, où d'ailleurs le personnage de la sœur et d'Olympe et le mari de Sacha prennent place pendant que les spectateurs s'installent pour lire un livre et se détendre. On a aussi la grande table finalement qui est un peu un des personnages principaux aussi de cette pièce là donc avec deux bancs de part et d'autre. On a aussi des draps qui sont de longs draps blancs qui tombent du plafond et qui sont agités par un ventilateur, donc signifiant
le vent,
voilà. Le vent et draps blancs qui ont une utilité, on va dire, projection et relative.
On voit une projection au début, mais elle aurait pu, enfin, le propos de la projection aurait pu être amené différemment, quoi.
En fait, c'est ça. Au début de la pièce, on a Anna et Nicolas qui sont dans un trajet en voiture et... Et une voix off qui raconte finalement leur tristesse et surtout la tristesse de Nicolas qui, depuis un certain temps, nous dit la voix, se sent plus très bien. C'est, voilà. Et ensuite, ce drap sera plus jamais utilisé ni pour une projection, ni même pour le vent. Il deviendra seulement une espèce de cloison derrière lesquelles se réfugieront les personnages en fait, lorsqu'ils quittent la scène, tout simplement. Enfin, à part ça, pas d'utilité.
D'accord. Bon, mais Lorenzo, j'ai l'impression que t'as encore quelque chose à dire. Tout à l'heure, t'as parlé de cette table comme d'un personnage quand même de la pièce, c'est quand même assez fort. Va falloir que tu reviennes là-dessus.
Tout simplement, déjà, plutôt dans la première partie d'ailleurs, la table va être le support des conversations, des scènes de groupe qui finalement sont assez réussies, là, pour le coup, contrairement aux monologues qui peuvent apparaître assez factices et de manière générale un peu inutiles. La table va aussi être le support, oui, de ces repas, de ces verres d'alcool. Comme dans toute pièce de Tchekhov, l'alcool a une place quand même assez importante. Et cette table, dont la troisième partie va être déportée en fait derrière le drap blanc. Et pendant le mariage, du coup, de Nicolas et Sacha, va symboliser en fait, ça, j'ai trouvé ça assez réussi finalement, une espèce de veillée funèbre, car des bougies vont être installées sur cette table qui apparaît par transparence derrière le drap, et finalement tout le mariage est placé derrière ce drap. Enfin, on voit pas clairement ce mariage se dérouler. Oui, en fait, pendant tout le mariage apparaît en filigrane cette veillée funèbre en fait, et Nicolas partira de la scène pour se suicider par un coup de pistolet en passant justement derrière cette table qui est à peu près son tombeau. Donc ouais, le décalage de cette table entre la première partie et la troisième partie est assez intéressante. Et il y a aussi... Non, c'est tout. Voilà.
Voilà.
Une superbe table en somme.
Très bien. Alors, dernière petite question. Est-ce que cette pièce, selon vous, est recommandable pour nos auditeurs et auditrices?
Je pense pour quelqu'un qui s'intéresse au texte de Tchekhov et qui a envie de voir comme ça un mélange de des Trois Sœurs et d'Ivanov, c'est intéressant. Après, dans l'absolu, non. Enfin, pas spécialement. Non. Moi, ça m'a pas marqué.
Ok. Ouais. Et toi, Lorenzo?
Moi, je suis assez d'accord, en fait. Enfin, à choisir, si moi-même je pouvais retourner la voir, non. Si moi-même je devais me conseiller d'aller la voir, pas forcément. C'est pas inintéressant, en fait, mais ça m'a laissé tellement sans émotion, sans réaction, que ça fait partie de ces pièces relativement lisses, en fait, dont on peut, je pense, se passer.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
« Chers auditeurs et auditrices, il est temps de refermer ce numéro attablé dans Spectateur, aujourd'hui animé par Marie Lécuyer avec Thomas Brunel, Léa Jusso et Lorenzo Ruzen. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le direct d'anniversaire de Transistor. Vous pourrez écouter votre émission le mercredi 6 décembre à 18h50 tapante, en live et sur la page du site ou en différé dès le lendemain. Nous vous parlerons du diptyque médiéval La chanson de Roland et Le roman de Renard, joué tout récemment au Théâtre National Populaire dans le cadre du cycle Le berceau de la langue. A très vite donc, et d'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. N'oubliez pas de vivre
en spectateur.